n'y a pas de hasard, que des rendez-vous. Je suis Charlotte, cofondatrice de Juillet, une agence événementielle dont la raison d'être est la rencontre. À travers ce podcast, je vous propose de découvrir des femmes et des hommes qui, avec audace, ont choisi de vivre passionnément. Ce rendez-vous est une rencontre avec des personnes inspirantes et peut-être une rencontre avec vous, avec cette personne que vous serez demain. C'est la saison 3 de l'Instant Juillet, alors posez-vous, respirez, et puisqu'il n'y a pas de hasard, découvrez notre invité dont la rencontre bouleverse notre chemin, et pourquoi pas le vôtre. C'est la première fois en 35 épisodes que nous enregistrons un podcast avec une cliente tout juste rencontrée. Et je le dis parce que cette rencontre inattendue a été une belle évidence. Il fallait que nous vous présentions Julie Duvivier. Julie est avocate et elle nous a contactés pour organiser la journée de fin d'année de ses équipes. Et ce fut une rencontre comme nous adorons en faire, parce que Julie a compris ce qu'était Juillet, parce qu'elle a su nous lire, parce qu'elle s'est, je crois, reconnue dans nos regards. Nous sommes fiers et impatients de vous présenter Julie, le temps d'un instant Juillet. Julie, bonjour.
Bonjour Charlotte.
Merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre invitée sur l'instant Juillet. Alors j'ai raconté rapidement notre rencontre et la raison pour laquelle tu es notre invitée aujourd'hui. Ce jour-là, nous avons échangé sur nos goûts musicaux notamment et tu es la seule personne au monde, je crois, à oser chanter du Elsa avec autant d'étoiles dans les yeux. Et en ça déjà, tu nous ressembles tellement. Et puis après l'événement, nous avons reçu de ta part un message incroyable sur ton vécu de notre instant Juillet. Et nous nous sommes vraiment reconnus dans tes mots et c'était très émouvant de te lire ainsi. Et comme une évidence, je l'ai dit, nous avons continué d'échanger et même de partager nos inspirations. Mais j'avoue que c'est la première fois que nous débutons un podcast sans connaître beaucoup plus de notre invité que cet été invincible que nous avons imaginé en toi. Alors j'aimerais que tu commences par te présenter. Qui es-tu, Julie ?
Merci beaucoup pour tes mots, Charlotte. L'impression est partagée. C'est vrai que les évidences, en général, sont partagées. Ce sont les belles coïncidences et synchronicités de la vie. Alors, je suis Julie. Difficile de se présenter. Je suis avocate. Je suis avant tout maman de deux enfants de 6 et 8 ans. Je pratique également beaucoup d'activités artistiques puisque j'écris beaucoup. Sur le plan musical, et je fais beaucoup de peinture, d'aquarelle aussi à côté.
Ça veut dire que tu composes ?
Oui, je compose en autodidacte, mais depuis plus de 20 ans en fait. Et c'est lié à mon parcours. Avant d'être avocate, en fait, j'ai arrêté mes études pour participer à la création d'une association dans le Finistère, une association musicale. Avec laquelle cette association a participé à la création du premier festival Groix-sur-Seine. Donc vraiment
c'est drôle,
avec
ça. Voilà. Tu vois, ça nous fait un autre point commun, création de festival.
Alors vraiment j'avais une participation très humble, mais j'ai vraiment assisté à l'essor de cette association et à la première année en fait de cette colocation avec des amis bretons dans un petit village du Finistère, Ploévin, à côté de Quimper. Et à côté, en marge de ces occupations associatives, j'ai toujours travaillé dans la restauration et aussi à l'ADMR auprès des personnes qui avaient besoin d'une assistance au quotidien.
Oui, bien sûr.
Voilà. Donc, c'est un peu le fil rouge de ma vie. Et c'est ce qui m'a permis également d'avoir toute ma liberté dans le cadre de mon activité ensuite. Enfin, quand je suis revenue au droit. Après avoir donné beaucoup de créativité et après avoir compris qu'il n'y a pas de créativité sans cadre, finalement, je suis revenue au droit avec toutes ces couleurs, avec toutes ces expériences et avec la certitude que dans la vie, il faut, et c'était vraiment mon leitmotiv et ça l'est encore aujourd'hui, c'est ce que je dis beaucoup à mes clients, il faut beaucoup rayer des lignes en fait, ne jamais rien lâcher et toujours prendre les épreuves comme des expériences et toujours aborder ses rêves. Sans avoir trop le fantasme, les peurs, etc., qui y sont associées, mais un peu comme on se lève le matin et avec l'envie, justement, de découvrir, en fait, sans avoir trop peur d'échouer.
Mais qu'est-ce qui fait, du coup, que tu étais dans le Finistère ? Est-ce que c'est en lien avec la peinture ? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de peintres qui adorent les couleurs du Finistère et qui vont peindre là-bas.
Ça va te plaire, ma réponse. Le hasard des rencontres.
Cool, bah, raconte ça.
Voilà, en fait, j'étais arrivée à à la fin de mon année de licence, je perdais complètement le sens dans ces études de droit qui clairement, où je m'ennuyais en fait. Et j'avais mon meilleur ami qui faisait des études pour devenir professeur de sport, qui avait toute une bande d'amis en fait à Angers. Et en fait, par le biais de ses amis communs, l'un de ses amis, Pierre, montait cette association et je suis partie avec lui même pas un mois après avoir terminé quand même ma licence. Donc j'ai terminé ma licence et je suis partie tout de suite pour créer. Okay. En fait, c'est vraiment le projet. Je ne savais pas du tout où j'allais. Je ne savais pas du tout ce qu'était le Finistère. J'ai toujours aimé, par contre, cette esthétique de la mer parce que j'adore Charles Baudelaire qui a notamment écrit beaucoup sur la mer et qui a pu dire cette belle citation « Homme libre, toujours tu chériras la mer » et ça a toujours résonné très fort en moi. Et encore une coïncidence ou un hasard, quand on va dans ce petit coin du Finistère et qu'on va sur la presqu'île de Crozon, l'état de Poix-de-Camaret, on a une magnifique stèle qui est dédiée en hommage aux marins disparus où il y a cette magnifique citation de Baudelaire.
Exactement, voilà. C'est vrai. Ouais. Et c'est un lien fort de toute façon, la mer, parce que même tout le champ lexical de la mer est sur l'aventure et sur l'épopée et sur aussi justement la connaissance de soi à travers ce voyage que tu entreprends vers l'inconnu, vers où tu ne vois pas du tout l'horizon finalement et à chaque fois renouvelé. Et je trouve, moi en tout cas, quand on a comme nous l'envie de faire des choses sur notre territoire, un lien fort avec la Loire, parce que la Loire elle a ça aussi, ce côté un peu libre, ce côté un petit peu aventureux de l'eau que t'arrives pas à maîtriser, voilà.
Totalement, c'est ce qui a fait que j'ai pu supporter le fait de survivre en revenant dans la région sans être trop loin de la mer, mais avec toujours ce souffle, cette perspective un peu d'évasion, ce lien, et c'est vrai que pour le coup le cabinet d'avocat, l'étude notariale avec laquelle on s'est associé. En fait, on a vraiment cette Loire en commun. C'est pour ça qu'on a...
Oui, entre Tours et Blois,
beaucoup de patrimoine, finalement. On a pris des arbitrages pour que tout soit autour de la Loire. Donc voilà, cette esthétique, en fait, de la mer, ce qui fait que beaucoup de mes compositions, après, sur le plan musical, se rapportent à la mer. Enfin, il y a toujours des choses sur le rythme. J'ai fait pas mal de voiliers aussi, donc le plaisir d'écouter de la musique en mer. Enfin, je sais pas, il y a une esthétique incroyable, générale, du rythme et de la liberté, le rapport au silence, enfin, et puis ces contrastes perpétuels.
Et du coup, tu composes pour un instrument ou pour...
Non, guitare-piano.
Guitare-piano, ok.
Après, je m'amuse toujours, donc j'ai mis de la flûte. Enfin, je m'amuse, je déforme la voix, j'ai samplé les voix de mes enfants sur des trucs.
C'est génial.
Voilà.
Donc mais ça, plus la peinture.
Voilà, enfin la peinture, tout ça en autodidacte avec beaucoup d'humilité, mais vraiment qui me
donne... Je vois sur les réseaux, ton compte tes peintures, c'est des très jolies peintures. Parce que c'est abstrait sans lettres. Non, c'est des jolies peintures que tu fais, je trouve.
Oui, c'est adorable, merci beaucoup, mais c'est... en fait, j'essaie toujours de... Enfin, ma vie, en fait, a beaucoup reposé sur les contrastes entre la lumière, l'ombre... la musique, les silences, j'ai un profil un peu hypersensible et du coup, y a toujours une part de spiritualité parce que pour moi, ce qui occupe les mains dégage la tête et tout ce qui va être artistique me permet de soigner une part d'obscurité et du coup de m'amener beaucoup de lumière dans ma vie. Enfin voilà, c'est toujours un peu comme les vagues, le ressac.
Mais c'est de quel artiste ça qu'on disait ça? Alors là, c'est une citation très approximative ce que je vais dire, mais j'ai un souvenir de... C'est pas de Mozart qu'on disait, il a tellement de talent que même ses silences restent de la musique.
Ah, je sais.
Je crois que c'est de Mozart qu'on disait ça. Mais je trouve ça très beau parce que les silences en musique, c'est hyper important. Mmh. Ouais, ça donne parfois...
Ouais, savoir écouter des silences avec quelqu'un, c'est parfois beaucoup plus précieux que de meubler avec beaucoup de choses inutiles, beaucoup d'agitation, là, c'est le terme, l'agitation.
Voilà. Et tu vois, ça c'est un point commun qu'on a aussi, parce qu'effectivement, alors il y a l'histoire de rencontres, il y a l'histoire de se laisser guider par les rencontres qu'on peut faire, et la musique, pour nous, et sur les événements concrets, et globalement, même sur le travail qu'on fait avec Juillet, la musique est hyper importante, parce que c'est important pour une ambiance, c'est important aussi pour les souvenirs, souvent une musique, ça rappelle aussi beaucoup d'instants vécus, donc c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Franchement, on crée des playlists, on adore la musique, et puis
J'ai entendu, j'ai écouté, elles sont super d'ailleurs.
Ah, c'est gentil. Ouais, ça, c'est la création. Ouais. C'est Cédric qui fait les playlists. Ça, c'est son talent. Les textes, c'est plutôt en général moi qui les écris. J'aime beaucoup écrire et lui, il a le grand talent de créer ses playlists avec des scénarios derrière. Ah, et c'est vraiment intéressant.
Et en fonction des saisons,
exactement.
C'est vraiment chouette.
En fonction des saisons et puis de l'ambiance qu'on veut donner, qui reflète aussi notre état d'esprit à ce moment, enfin au moment où on sort la playlist, parce que la musique, ça permet aussi de traduire tout ça. Oui. Et c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Mais et on a aussi donc du coup comme point commun d'organiser un festival. C'est drôle. C'est quelque chose qu'on aime
alors,
faire.
Alors vraiment
aussi.
Avec beaucoup d'humilité, moi j'ai été un peu la répète. Mais c'est vrai que j'ai assisté à tout ça et c'était un moment très très intéressant en fait.
Non, mais de partage. Franchement
contre,
un festival
génial.
De musique. Mais ouais c'est vraiment, super. C'est vraiment des chouettes moments. Alors tu vois c'est rigolo qu'on ait sans le savoir tous ces points communs là.
Oui, il n'y a pas chouette. De hasard.
Et comment tu fais alors comment tu redeviens hyper cadré pour un métier comme le métier d'avocate où on imagine parce que nous pour être sincère ça va être décousu là mon intervention hein,
mais c'est très bien c'est encore mieux quand c'est comme ça
c'est ça mais en fait pour être hyper sincère sur ça nous au départ quand tu nous as contacté pour organiser ta soirée de fin d'année, ta journée de fin d'année avec tes équipes. Bon, on est toujours super ravis d'organiser ça. On a créé un super scénario. On était très, très contents, mais on ne se connaissait pas. Et vraiment, par défaut, on s'est dit, cabinet d'avocats, ils vont être sérieux. Hein. Vraiment, va falloir qu'on voit comment on va les faire s'amuser ou les faire rire ou se détendre sur un métier aussi sérieux que celui d'avocat. Mais direct, franchement, Cédric, qui vous a vu arriver dans la cour, la franchise qui m'a dit, c'est direct. Mais ils ont l'air super cool.
C'est
assez drôle.
On a une ambiance très familiale, en fait. Alors, on ne s'en rend pas compte comme ça, parce qu'effectivement, les métiers du droit, comme plein de métiers, on a le poids de la caricature ou des archétypes, en fait, qui contiennent beaucoup ce qu'on va projeter, ce qu'on va imaginer. Mais en réalité, moi, j'ai beaucoup l'habitude de dire, et c'est comme ça que je vois mon métier, on est très très artiste dans notre démarche parce que on cherche constamment des solutions et chercher une solution en partant certes d'un cadre mais avoir une démarche qui constamment consiste à chercher des solutions pour nos clients, pour les besoins, etc. C'est une démarche très créative, c'est ça qui me plaît et c'est ça qui fait le lien avec tout ce que je fais. C'est juste que c'est un médium différent, le droit qui évolue sans cesse, donc qui est très mouvant, comme pourrait l'être une palette de peinture ou quand on décline des tonalités mineures en musique avec un potentiel infini. Il faut savoir saisir un peu ce qui va bien sonner, le diapason, coordonner tout un tas de paramètres pour coller au plus près des intérêts du client. Donc finalement, on est très sur une activité un peu plutôt d'artisan, enfin voilà, artisanale.
Et finalement, ça peut ressembler à ce qu'on peut imaginer pour nous sur la création finalement d'un événement parce qu'on va essayer de coller au maximum à ce qu'a envie de raconter la personne qui nous engage, l'ambiance qu'elle a envie de créer, la rencontre qu'elle a envie de provoquer entre ses équipes. Quelque part, c'est un petit peu...
On est tous des chercheurs de solutions, je pense. Et après, on a des instruments différents, des pupitres différents et on a tous des talents de chef d'orchestre différents et c'est ce qui fait aussi la force de nos équipes, parce qu'on fait plein de choses très variées, avec des constructions de personnalités très complémentaires, et ce qui fait qu'on on peut faire une belle musique, jouer une belle partition au bout du bout.
Et alors, c'est ce que tu avais imaginé quand tu as décidé de faire des études de droit ?
Ah, alors pas du tout. Alors ça, c'est une vraie question. J'avais une vision très archétypale, je ne sais pas si ça se dit, de la profession. C'est-à-dire que je voulais un peu, quand j'étais jeune, mais très clairement, mon stage de troisième en cabinet d'avocat, je voulais servir, je voulais être au service, je voulais, pour le coup, sauver. C'était un peu mon postulat de départ. Et au fur et à mesure de l'expérience, de la pratique de ce métier j'exerce depuis 11 ans aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'on est toujours au service des besoins des gens, mais qu'il ne faut absolument pas tomber dans l'écueil de vouloir les sauver. Pour moi, le bon avocat, le bon professionnel du droit, c'est celui qui se met humblement au service, qui n'est pas là pour sauver, qui est là pour défendre, comme vous le faites d'ailleurs, des besoins, des attentes, etc. Mais qui sait aussi rester à sa place, faire le pas de côté, être en présence sans être dans une logique d'ego et de pouvoir. On n'est pas là pour changer le destin de quelqu'un. On est là pour se rappeler chaque jour que ce destin lui appartient toujours et qu'on est là pour lui apporter le plus d'outils dans son panier. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup et qui fait que ce métier n'est pas aliénant pour moi au regard des autres activités que je peux avoir et où je peux toujours rester le capitaine de mon voilier, en fait. C'est moi qui tiens la barre sur ce que je fais, mais les gens, enfin, c'est un peu ni Dieu ni maître, mais finalement, personne ne va dicter ma conduite ni la façon dont j'ai envie de diriger les choses. Mais par contre, si on veut bien monter dans mon bateau, on trouvera ce que j'y ai mis. Et il n'y a que ça que j'ai à offrir et je ne prétends pas à autre chose, mais c'est ce qui me donne du sens. Donc,
oui, parce que finalement, tu donnes tous les outils aux gens pour être eux-mêmes libres et capitaines de leur bateau.
Totalement.
Et c'est intéressant
y a
parce
pas
que...
d'ingérence.
Ouais, mais c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que tu vois, je fais le parallèle avec ce que tu as dit dans ta présentation du début où tu dis que tu étais d'abord maman de deux enfants.
Oui.
Moi, je suis aussi maman de deux enfants. Oui. Et c'est toujours, je trouve, enfin moi en tant que maman, la question que je me pose sans arrêt, tu vois, on en parlait encore il y a peu de temps. Moi, j'ai des enfants un peu plus grands que les tiens. Ils ont 7 et 11 ans, mais tu vois,
on est encore dans le même...
Voilà, c'est les mêmes enjeux, quoi.
Ouais,
et en fait, je suis toujours dans le perpétuel mouvement de se dire je dois être là pour eux, les soutenir, être rassurante, être protectrice et en même temps leur donner les outils pour qu'ils soient libres de faire leur choix et qu'ils se sentent libres de faire le choix quel que soit peut-être mon avis ou quel que soit ce que je vais en penser et qu'ils tentent. Et puis au pire, bon, bah, s'ils se trompent, je suis là derrière, mais en tout cas, les laisser autonomes, les laisser libres, les laisser faire leur propre choix, même, enfin, ça peut paraître drôle de dire ça, mais même à 7 ou 11 ans,
mais
pas justement être aliénant ou de pas choisir pour eux le destin.
Et surtout le plaisir de faire ses expériences, de commettre ses propres erreurs. Mais oui, non, c'est Khalil Gibran, ça fait partie vraiment de mes sources d'inspiration, mais c'est un prophète libanais qui a été beaucoup à Londres aussi, qui a beaucoup écrit sous forme d'aphorismes très poétiques, etc., notamment dans son livre Le Prophète, qui a beaucoup comparé les enfants à des flèches qui partent de l'arc que l'on représente. Et en fait, les enfants appartiennent à la vie, mais ils nous appartiennent,
Exactement. Tiendront
jamais. Et moi, la fonction parentale, on fait ce qu'on peut, toujours ce qu'on peut.
Surtout,
mais,
oui.
Mais voilà... On est là pour les guider, en fait, mais ils ne nous appartiennent jamais. Et d'ailleurs, à partir du moment où ils arrivent, on est déjà quasiment une version obsolète de ce qu'ils seront
exactement,
demain, quoi.
Exactement. Et alors, c'est assez drôle parce que le parallèle que tu fais avec l'avocat, mais je trouve que c'est un lâcher-prise vachement intéressant, c'est de se dire, OK, tu donnes les outils et finalement, il faut que tu acceptes que les personnes ne vont peut-être pas faire le choix que tu aurais fait de l'outil ou l'utilisation que tu aurais fait toi de l'outil, mais que finalement, c'est pas grave, tu leur as transmis ce que tu pouvais et derrière, bah, c'est à eux de construire avec ça, quoi.
C'est ça, c'est le vrai pour moi, le véritable amour inconditionnel, c'est qu'on ne possède jamais l'autre, on est là en soutien et on le fait en humilité. En fait, c'est toute la différence entre être et être dans l'ego et l'existence, marcher autour de soi constamment, nanana. Voilà, c'est quand on arrive à parvenir à des états où on n'est plus dans une névrose constante de devoir être reconnu pour X raisons, je trouve qu'on arrive à tenir un bon diapason, une place juste. Et la justesse n'est que rarement la justice, c'est pour ça que je me réoriente aussi professionnellement, mais une place juste qui n'est pas une place de pouvoir, d'ego, etc. Moi, mon job, c'est d'être là pour les gens, dans la limite de ce que je suis, mais avec tout ce que je suis. Et c'est aussi ce qui me donne la force.
Et pleinement, et sincèrement,
exactement.
Et engagée. Dans...
Voilà, exactement. Et c'est ce qui me permet de toujours considérer qu'une erreur n'est jamais une erreur, c'est une expérience. Et aussi dans cette société française où tout est toujours échec, réussite. Enfin voilà, on est sur des trucs hyper dichotomiques, pas justes, où ça manque de nuances cruellement. Bah, de rassurer, de restaurer mes clients souvent en leur disant, vous savez... Vous serez certainement plein de gratitude dans 5 ans par rapport à cette épreuve qui vous tombe dessus parce qu'au bout du couloir, vous trouverez certainement une lumière merveilleuse et la lumière brille toujours encore plus fort dans l'obscurité. Et donc, c'est peut-être pas évident aujourd'hui, mais essayez de voir ça comme une expérience de vie parce que... Enfin voilà, et des fois... Enfin, c'est précieux de leur dire ça parce que
bah, ils sont
on
seuls,
a des
souvent,
gens qui sont voilà, très aussi, seuls, hein. Très et... jugés, très...
Exactement. Voilà. Et souvent, d'ailleurs, quand on a des épreuves de vie, c'est là où on mesure si on est accompagné, finalement, correctement, entre guillemets, quand je dis correctement, avec des gens vraiment bienveillants autour de nous, ou si bah, on est lâché parce qu'en fin de compte, les gens nous jugent et lâchent dans le...
Ah oui, c'est la ouais. belle phase de...
C'est ça. Ouais. Mais on ne pense pas forcément ça d'un avocat. Pas sincèrement, moi je me dis, quand tu vas voir un avocat, ça c'est vraiment que tu as des trucs à faire chiants que tu n'as pas envie de faire, quoi.
Oui, c'est possible. Alors, c'est vrai que moi, j'ai eu cette histoire de vie où ma mère était psychologue, mon père avocat, donc j'ai toujours été entre ces deux domaines de ressources humaines, mais vraiment avec cette... moi, c'est vraiment le chemin que je fais avec les gens qui m'intéressent.
Ouais, t'as cette vision-là.
Voilà. Humaine, oui, c'est
t'avais,
ma vision.
T'avais cet angle-là parce qu'effectivement, t'as des parents qui t'ont peut-être aussi ouais, donné cette lumière-là sur ce qui fait l'humain, enfin voilà, et ce qui t'intéresse.
Oui, puis mon arrivée, enfin je pense, le sens, le fait d'avoir toujours été avec des gens très simples, d'avoir travaillé dans les fermes petites, enfin voilà, mon histoire en fait.
Bah, puis ton expérience du coup à la DMR.
Oui, exactement.
Ah, c'est
voilà,
un
c'est
détail
le fil
dans ce
rouge.
Que tu as dit. Mais...
Mais dès que j'avais 12-13 ans, en fait, bon, mes parents avaient certains moyens, mais on était toujours à proximité de fermes. Et moi, les week-ends, je m'évadais en fait chez nos voisins. Je me suis occupée des vaches tous les hivers. Le plaisir de manger une petite tartine avec du chocolat en poudre. Enfin, ces instants précieux, en fait, ces instants présents. Qui donne toute la saveur à une vie et que l'argent n'achètera jamais, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai toujours eu cette ligne un peu conductrice, voilà.
Hey, mais tu vois, je trouve que le fil rouge, c'est vraiment l'autre, parce que je crois pas qu'il y ait beaucoup de jeunes étudiants en licence de droit qui se disent, tiens, je pars en Bretagne et je vais bosser à la DMR. Sincèrement, c'est des métiers dont on sait ils sont très peu attractifs. C'est des métiers difficiles qui sont beaucoup dans la relation à l'autre et à la fois qui sont... il faut les accepter, ces métiers-là, parce qu'on est face à des gens qui sont dans des situations de fragilité.
Oui. Oui, oui, c'est être au service, vraiment. C'est un appel qu'on a, je pense qu'on reçoit. Hein,
et ta vision, elle est assez bonne parce que c'est comment dire, être au service, mais sans aliéner non plus. C'est pas parce que la personne, elle est en perte d'autonomie que tu dois lui imposer. Ou,
ah non, jamais voilà. On impose. On propose toujours.
Ah non, mais c'est ça. Mais c'est...
Et surtout, on respecte toujours l'autre, enfin l'humanité de l'autre. Je suis personne pour me situer au-dessus de mes clients ou simplement j'ai un savoir-faire que je mets à disposition, quoi. Voilà.
Et ça, du coup, peut-être ça te sert aujourd'hui dans ton rôle d'avocat. Finalement, c'est une expérience peut-être qui te sert au quotidien.
De toute façon, tout sert. Toutes les expériences sont très, très riches. Ça me sert à me souvenir chaque jour qui je suis. Comment dire à garder la barre, en fait. Pour reprendre une métaphore marine, dans la vie, on tire beaucoup de bords. On va rarement envoyer d'un point A à un point B tout droit. On va souvent bien à droite en fonction du vent, des courants, des impondérables, etc. Et ça me sert toujours, ce cap que j'ai au fond de moi, à accepter le fait de tirer des fois beaucoup de bords et que c'est le chemin qui compte et c'est pas forcément ce qu'on trouve à l'arrivée.
Voilà. Sur la métaphore de la mer, on a écrit un texte il y a peu de temps, je sais plus à quelle occasion, mais où j'avais découvert cette métaphore sur la navigation que j'avais trouvée intéressante, c'est la navigation par l'absence de vue. Et ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que quand on est perdu, qu'on voit pas du tout où on peut aller, en fait, se dire je continue d'avancer, et tant que je vois pas d'obstacle, c'est que je suis dans la bonne direction. Parce que les navigateurs, quand il y a trop de brouillard dans la mer, etc., il y a une navigation négative, je crois que ça s'appelle, je sais plus, je l'ai écrit dans le texte. En fait, ils disent tant qu'ils voient pas d'obstacles ou de lumière de phare, ça veut dire qu'en fait, s'il y a pas d'obstacle. Donc en fait, tant qu'on voit pas, et ben justement, continue d'avancer et t'inquiète pas sur des obstacles que tu imagines, mais qui finalement n'existent
pas.
C'est
le fantasme des peurs
et
se faire confiance.
Et c'est encore une métaphore sur la mer, mais je trouve vraiment très intéressante sur le fait, mais avance en fait.
La foi. Quelque part.
Enfin, bah, un peu, ouais.
La foi qu'on soit...
Sur ce que tu
quelle
vois
que
pas.
Quelle que soit la spiritualité,
en fait.
Moi, je crois beaucoup plus en la spiritualité qu'en la religion. Pour moi, tout ce qui est spirituel, ça doit relier par l'amour. Donc après, ça appartient à chacun d'y mettre ce qu'il y veut et d'appeler ça ce qu'il veut. Mais pour moi, c'est une expérience de foi, justement, d'avancer les yeux fermés tant qu'il n'y a pas d'obstacle. Et du coup, d'appréhender l'obstacle aussi. Puis j'ai fait un peu d'équitation quand j'étais jeune. Donc, appréhender l'obstacle aussi, avoir toujours cette envie d'y aller et de ne pas se laisser dépasser par ses peurs. Tout ça, ça me parle bien, oui, effectivement.
Ça sert, ça, au quotidien.
Ouais,
mais c'est pas si simple, sincèrement.
Non.
même quand tu arrives à l'exprimer, on a beau avoir voilà, les capacités d'analyser nos forces, nos faiblesses et puis nos propres failles aussi, nos propres peurs, les dépasser, c'est encore une autre chose. Tu peux les avoir en tête, les dépasser, c'est...
Ça commande d'aimer son obscurité.
Et
enfin,
c'est vrai.
Si on n'aime pas son obscurité et qu'on s'accroche qu'à la lumière et qu'on n'a pas d'amour ni de tendresse pour les fêlures qu'on peut avoir et pour les moments où ça va moins bien, parce qu'on a tous des moments où c'est très difficile, etc. Quand on arrive à assimiler ça et à avoir de la tendresse pour ces fêlures, on peut pas... l'obstacle est toujours moins dur parce qu'on s'enlève une partie du jugement qui est très contre-productif quand on a justement besoin de s'en sortir. Donc on sait que ça ira mieux, même si on ne le ressent pas encore. Et ça aide justement à garder cette foi, ce cap, pour toujours chercher la lumière quelque part. Quoi.
Et à se dire finalement que cette part-là, c'est ce que tu disais, du coup ça t'enrichit et ça te permet...
Exactement, c'est ça qui est merveilleux. Et c'est vrai qu'en peinture, alors pour le coup, moi, l'aquarelle, je trouve que c'est un truc génial pour bien mesurer ça. Enfin, on ne peut pas mettre en évidence une couleur si on n'a pas un antagonisme, une couleur plus froide pour une couleur chaude. Enfin, tout est toujours dans cet équilibre de contraste, donc... ça permet d'aborder les traumatismes pour grandir et toujours muter dans une version encore plus améliorée de soi-même. Enfin, voilà.
Et alors avec tout
la
ça,
mutation.
est-ce que sur ce chemin-là et sur les pensées que tu as là, il y a une personne qui t'a guidée là-dessus, que t'as admirée, qui te sert un petit peu de référence?
Alors, j'ai beaucoup de... Comment dire ? Je suis très bordélique dans mon rapport aux sources, quelles qu'elles soient, en fait, en peinture. J'ai toujours besoin d'avoir une profusion de choses et de laisser un peu décanter. Et après, il y a quelque chose qui émerge. Je ne sais pas si c'est très clair. J'ai des auteurs comme Khalil Gibran, dont je parlais tout à l'heure, Charles Baudelaire, enfin, qui sont plutôt dans des esthétiques... Pour Khalil Gibran, c'est des esthétiques plus poétiques, mais toujours un rapport au contraste, à l'équilibre. La peine est un puits de joie pour demain. Enfin voilà, ce sont que des aphorismes comme ça. Charles Baudelaire qui était dans une esthétique plus de torsion, mais qui mettait en valeur le beau, de la croix. Enfin voilà, tous ces auteurs-là. Et là, très très récemment, je lis un livre d'une auteure qui s'appelle Pinkola Estes, femme qui court avec les loups, femme qui danse avec les loups. Je vais peut-être regarder exactement. Femme qui court avec les loups, elle s'appelle Clarissa Pinkola Estes. En fait, ce livre, il m'aide beaucoup parce que, alors, je suis pas quelqu'un de très engagé. Enfin, j'ai du mal à m'accrocher à des combats, en fait. Je suis pas quelqu'un de politique. Enfin, voilà, pour me définir plus précisément. En revanche, la cause des femmes me tient vraiment à cœur. Et parce que finalement, sans rentrer dans des propos très galvanisés, etc., on est quand même dans une société où la femme humaine est à peu près la seule femelle du règne animal à qui on interdit la violence défensive, par exemple. Et cette auteure qui revisite beaucoup de contes, qui est aussi conteuse, qui a beaucoup travaillé avec des grands traumatisés d'après-guerre, etc., permet de reconnecter à son instinct sauvage animal. Alors c'est une sphère un peu spirituelle, mais moi qui m'aide beaucoup à me rappeler pourquoi quand je défends certains dossiers de violence conjugale, etc., enfin voilà, comment aborder ça et comment ne jamais s'excuser d'être qui on est. De dire ce qu'on doit dire et parfois même d'être très violent dans ses propos ou dans ses agissements. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de très sage, mais aussi de très rebelle dans ma façon d'aborder ma vie. Mais j'ai toujours eu ce complexe de m'excuser parfois quand je devais exister dans telle ou telle situation dans un monde d'hommes. Enfin, voilà.
Oui, ou quand tu as peut-être des propos qui dépassent ou en tout cas que tu as l'impression que tu es trop emportée sur quelque chose.
Voilà, exactement. Et en fait, cette auteure, elle me fait beaucoup de bien parce qu'elle me permet d'accueillir beaucoup d'obscurité en moi et beaucoup de volonté d'affirmation qui me manquait en fait pour justement encore mieux avancer demain. Et elle a vraiment ce talent, je trouve, de parler aux femmes et de parler aux femmes de la femme sauvage vraiment ancestrale qui nous rallie à la terre, à l'universel et qui nous permet de nous relever, de bien défendre nos enfants, d'être là pour nous-mêmes, etc., d'être présente pour nous-mêmes dans un monde encore malheureusement très patriarcal et sans faire trop de voilà. Mais c'est quand même une réalité avec des violences qui sont complètement banalisées ou alors, j'entends encore dans les prétoires des procureurs requérir à la petite tyrannie ordinaire quand on parle de violence conjugale. Donc ça me fait bondir. Et ça, c'est vraiment des choses où ça m'aide en fait à être très violente dans mon positionnement parce qu'on ne peut pas, tout simplement banaliser ces violences-là.
Enfin, surtout qu'au-delà de ça, en général, c'est des familles. Donc c'est aussi des enfants qui sont au milieu de ces violences.
Enfin, exactement.
Peuvent être, je sais pas,
totalement
une tyrannie
tyrannie ordinaire, non,
ordinaire sur des enfants.
Maintenant, quand les enfants sont témoins, sont des violences aggravées. Il y a encore des années, c'était des violences. Enfin voilà, on prenait pas en compte le facteur aggravant de la présence de l'enfant témoin de ces violences terribles. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, même si j'ai pas l'ambition. Je suis pas quelqu'un d'engagé. Par contre, je suis quelqu'un de. J'essaie de plus en plus d'être quelqu'un de positionné là-dessus et de ne pas m'excuser quand je m'affirme sur ces questions-là.
Et est-ce que ça veut dire du coup que parfois tu peux refuser de défendre certaines personnes ? Ou au contraire, même si c'est quelqu'un qui va te sembler coupable ou sur des choses que toi, tu pourrais ne pas cautionner, tu peux quand même imaginer le défendre pour justement les failles peut-être qu'il aurait ou...
C'est ça. Non, je refuse jamais de défendre qui que ce soit.
Non mais c'est intéressant parce que j'avais entendu déjà un discours là-dessus sur les avocats,
oui.
De dire Mère Teresa elle a pas besoin d'avocat et qu'en gros ce qui est intéressant ou ce qui est passionnant quand on est avocat c'est justement de défendre des coupables puisque a priori un innocent, alors évidemment c'est un grand enjeu parce qu'il y a des innocents qui ont besoin d'être défendus hélas, mais a priori on peut se dire qu'un innocent n'a pas besoin d'avocat.
Oui, puis c'est quoi un innocent et c'est quoi un coupable en fait? Il y a un auteur qui est jugé par rapport à des faits, ce sont surtout les faits que l'on juge et pas la personne. Et le job de l'avocat, c'est de traduire l'humanité de cette personne, même si les actes en eux-mêmes peuvent nous paraître complètement inhumains, ignobles, etc. Donc le but, c'est de pouvoir se connecter à l'humanité de cette personne et expliquer, parce que c'est, souvent on est le seul rempart... par rapport à la pression d'une audience ou d'une accusation, ça permet justement d'être là pour lui, en fait, de l'humaniser, etc.
Ce qui veut dire que les faits, ils peuvent être différents ou changés ou être interprétés différemment en fonction de la défense de l'avocat ou de...
Bah, chacun met sa lumière sur les faits. C'est pour ça qu'il y a les droits de la défense en France. Et ce droit fondamental à être toujours défendu, à parler en dernier, la présomption d'innocence, tous ces grands principes.
Mais ce qui est intéressant, parce que par rapport à ce que tu disais sur justement les combats des femmes, mais d'autres combats sur même le droit des hommes globalement et le droit de l'enfant, c'est qu'on a aujourd'hui des lectures très différentes d'il y a même encore 200 ans, ce qui n'est pas très ancien. Mais finalement, les faits aujourd'hui qu'on peut exprimer de violence conjugale, peut-être qu'il y a 200 ans, ça aurait été même pas traité, même pas un sujet. Qu'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est perçu comme des faits graves.
On a encore énormément de progrès à faire.
Non, mais je trouve que c'est intéressant, parce que ça veut dire
totalement.
Que les faits peuvent totalement changer en fonction de l'époque, du contexte.
Et oui, c'est tout l'art de la criminologie, c'est passionnant. Mais même, en fait, quand on change d'état, quel que soit en fait, l'état considéré, le système pénal et la criminologie qui s'applique, on a des systèmes répressifs qui changent en fonction de la dureté ou non d'un système pénal répressif. Donc, c'est hyper intéressant.
Ouais. Donc là, ça veut dire que toi, ça va être le truc, comme on voit à la télé, ça va être mon côté un peu... fan, ça veut dire que toi tu vas plaider à un tribunal pour quelqu'un qui a pu soit est victime, soit peu importe coupable dans, mais ou que toi tu vas défendre, donc tu parles au juge, tu fais une plaidoirie complète sur
voilà exactement,
c'est top ça, en robe et tout ou pas?
Oui
génial.
Après c'est mon métier, c'est mon costume professionnel tout simplement.
Ouais, mais ça je trouve ça tu vois
mais en fait ce costume il est très lié à la prêtrise et c'est justement un costume un peu d'humilité qui
oui mais ça te permet de te mettre dans ton rôle
totalement,
c'est-à-dire de dire là c'est pas Julie
totalement
qui est là, ça va être moi, je suis avocate de cette personne. Totalement. Je suis en costume de...
Et encore une fois, on n'est pas dans l'ego, pas dans la représentation, on est là pour le client. C'est lui qui nous donne la force, enfin, c'est pour lui qu'on est là, et c'est lui qui nous donne la force de surmonter la peur dans des dossiers qui sont impressionnants et qui fait que bah, des fois c'est dur hein, d'aller plaider, de s'exprimer, de rentrer dans cette audience qui parfois peut sembler, dans les ressentis qu'on éprouve, comme une arène, où on est le seul à défendre une personne qui a violé par exemple un enfant ou etc. Ou alors une femme qui n'est toujours pas entendue après avoir porté plainte il y a 7 ans et où on est obligé de changer entre un commissariat, passer devant un gendarme pour qu'il y ait enfin cette page de déposition et pas simplement cette ligne. Voilà, on est dans ce combat, mais ce combat on le fait pour le client et pas dans cet ego, enfin voilà, ce côté très théâtral de l'audience dans ces dossiers-là, en tout cas... De l'impression que ça peut donner.
Et alors, après, comment tu passes d'une rencontre à une autre? Parce que je vois, enfin, je vais faire une comparaison qui est pourtant assez différente, mais nous, quand on organise des événements et qu'on crée ça pendant des mois avec les personnes, et puis qu'on vit l'événement ensemble, et puis que l'événement se termine, tu sais, il y a comme une espèce de retombée, tu vois,
la
décompensation, exactement, qui est pas toujours facile à gérer et qu'on gère parce qu'on a l'événement d'après, ou qu'on gère parce que maintenant, on se dit, ok, ça va passer, j'accepte d'être là dans une phase un peu de bas et ça va remonter, mais on a toujours ce après les émotions ressenties, une phase un petit peu compliquée parce qu'on a rencontré des gens, on a partagé des émotions fortes avec eux. Et là, je me dis, toi, dans ton métier qui touche en plus des choses vraiment parfois très graves quoi, de la vie ou sur des valeurs très compliquées, nous on est sur la fête, hein. Donc même si c'est des émotions, non, mais ça peut être des émotions vraiment authentiques, sincères et importantes dans la vie des gens, mais ça reste en général plutôt des belles émotions, des émotions plutôt festives, plutôt joyeuses. Et je me dis, toi, comment tu passes d'une histoire à une autre, d'une rencontre à une autre, si ça doit forcément te bousculer à un moment, si tu ne peux pas rester...
Oui, pas plus que le marin qui doit toujours se remettre d'une vague, une vague après l'autre. Enfin, en fait, la décompensation, là, après des gros, gros dossiers, c'est vrai que quand on plaide son dossier, on a un truc, on est un peu... On est un peu sur une autre planète et voilà, on décompense un peu. Mais on a la satisfaction d'avoir en tout cas tenté de faire de son mieux. Donc on accueille ça comme ça vient. Et puis on a d'autres dossiers en cours.
Oui, ça te permet de continuer, quoi, de reprendre.
Oui, c'est ça. En fait, j'ai rarement ressenti un manque. Comment dire ? Un manque ou une nostalgie ou l'envie de poursuivre des liens. Quand j'ai terminé un dossier, je suis vraiment dans mon job et je me dis, voilà, ça appartient maintenant au magistrat qui va rendre la décision et la vie de la personne appartient à cette personne. Et donc, voilà, sauf pour des personnes évidemment que je connais à côté. Et du coup, enfin voilà, on a un maintien de lien, mais je le gère un peu comme les turpitudes ou les impondérables de la vie. J'apprends aussi à accueillir un peu plus l'hiver en moi que l'été par rapport à ces moments. C'est important de savoir accueillir aussi ces moments de repos, un peu comme la terre en jachère l'hiver ou en fonction des saisons.
Et ça fait combien de temps, du coup, aujourd'hui que tu exerces comme avocate ?
Alors, j'ai prêté serment en 2011, en novembre 2011. Donc voilà, on est en janvier 2023, ça fait à peu près 11 ans.
Et du coup, c'est toujours avec la même passion, ou est-ce que là aujourd'hui tu as une phase où tu te dis, voilà, ça fait plus de 10 ans que je fais ce métier-là, j'ai fait le tour du truc et j'apprends plus rien, au contraire maintenant je découvre tous les jours et c'est un métier tellement riche que...
Alors je pense qu'on évolue constamment dans la vie, quel que soit le job d'ailleurs que l'on fait. Moi dans les outils ressources que j'ai à ma disposition dans mon métier, c'est pas que j'ai fait le tour des outils à ma disposition, mais j'ai envie de les enrichir au-delà des formations que je peux faire sur les contenus de droit, sur les matières que je traite, etc. J'ai amorcé l'année dernière une formation en médiation pour devenir médiateur, avocat médiateur. Parce qu'on est dans un contexte où souvent la justice n'est pas la justesse. C'est-à-dire que on va traiter une question juridique, mais on va pas forcément faire le tour des besoins des gens. Des fois la question juridique n'est pas le vrai besoin et des fois la question est beaucoup plus différente. Et en fait la médiation pour moi c'est un outil de responsabilisation des justiciables qui permet d'éviter d'avoir toujours recours à cette autorité suprême du magistrat. Voilà, où dans ce schéma-là, on infantilise souvent quand même les parties qui doivent toujours parler aux autres via l'avocat, donc on est dans l'intermédiation. Voilà, moi j'ai envie de plus de responsabilisation, de rapports plus directs avec les gens, que les gens se disent qu'ils ont vraiment à se dire et de pouvoir appréhender vraiment quel est le problème de la situation.
Finalement, peut-être éviter du coup le juridique derrière le judiciaire.
Bah, voilà, c'est le but quand on peut l'éviter, ou en tout cas de se mettre d'accord sur le plus de choses possibles pour éviter d'aller au judiciaire et d'avoir le sentiment justement d'avoir œuvré pour la paix et non pas d'avoir œuvré pour la guerre. Parce que c'est souvent, malheureusement, quand on commence à mettre les pieds dans un dossier, là, notamment en matière familiale, plus on intervient au soutien des intérêts de notre client qui n'est qu'une vision du dossier.
Oui, puis souvent tronqué, parce que finalement, voilà, c'est logique, en fait, même sans le vouloir. Hein,
et oui, on devient un peu une arme de destruction hein, quand même, même si on met beaucoup de... Enfin voilà, on essaie d'être très prudent, d'aller vraiment analyser les besoins, de faire des pas de côté en permanence, etc. Et en fait, on nourrit par les courriers qu'on fait, par les conclusions qu'on prend, un antagonisme qui s'aggrave. Et quand il y a des enfants au milieu, c'est dramatique. Alors qu'en médiation, c'est un espace confidentiel, les gens ont la parole, peuvent se dire des choses qui ne sont pas que juridiques, peuvent se prendre la tête, hein, clairement, s'envoyer tout ce qu'ils ont besoin de s'envoyer. Et c'est très sain. Le conflit, enfin, pour moi, c'est quelque chose de très sain. Ce qui est toxique, c'est la façon dont on gère le conflit et la violence d'un conflit qui en arrive même à un silence et un arrêt total de la communication avec des tensions.
Parfois, la violence, c'est des fois, c'est le silence ou c'est de ne pas se dire. Enfin, parfois, la violence, c'est l'indifférence, c'est de taire. Enfin, ça peut être tout aussi violent que des mots.
Le silence, c'est une forme de communication. Ouais. Quand on fait la gueule et qu'on boude et qu'on parle pas, on communique. On signifie à l'autre par son corps et par sa posture que on est très très en colère et qu'on n'a absolument pas envie d'exprimer les choses, etc. Donc c'est là où justement c'est compliqué. Et souvent quand on va voir l'avocat, c'est « Monsieur le sauveur, tuez-le, quoi ». Enfin, j'extrapole. Hein. J'ai plein de gens pas du tout névrosés qui ne viennent jamais me voir pour ça, mais quand même.
Ou alors ils viennent te voir en disant « Si par exemple je tue quelqu'un et que je cache le corps,
non, jamais.
Est-ce qu'on me retrouvera ou est-ce que... »
Jamais. Non, en général, on a la coutume de dire hein, que les personnes testent toujours leur thèse sur l'avocat. Il faut que l'avocat soit convaincu quand même quand il va plaider. Donc on plaide rarement autre chose que ce qu'on ressent quand même. Mais c'est l'idée d'avoir plus d'apaisement, plus de justesse et d'avoir justement une place... qui n'est pas ancré. Alors j'ai une autre personne qui m'inspire dans ma profession, c'est un sociologue qui s'appelle Karpman et qui parle du triangle dramatique dont il faut assurer la transformation en triangle compassionnel. Et en fait, il y a beaucoup de jeux de rôle toxiques où la victime se victimise et l'enfant qui ne veut pas grandir, etc. Le sauveur a constamment besoin
une victime à sauver.
Exactement.
Sinon ça marche pas,
l'agresseur. Enfin voilà, ce triangle marche sur la tête. Et l'idée, c'est que la victime se responsabilise, l'agresseur soit plus en présence pour lui, et le sauveur soit en présence, mais pas dans l'ingérence. Donc c'est vraiment l'idée. Moi, je veux plus, entre guillemets, de ce rôle de sauveur des fois qu'on me demande de jouer. Et j'essaie déjà de toute façon, je suis rarement le sauveur. Je suis beaucoup plus quelqu'un qui va poser des questions, par exemple en rendez-vous ou autre. Mais j'aimerais être encore plus en présence, voire être complètement à l'extérieur et aider à la reformulation en empathie. La médiation, en fait, le médiateur est spécialisé dans l'art de la reformulation. Quand on ne s'entend pas, on est côte à côte et on ne veut plus se parler, on ne s'entend plus au sens propre. Mais quand ça passe par un médiateur qui va reformuler avec empathie chaque besoin, etc., et qu'il le reformule à l'attention notamment de l'autre personne, comme par magie, en fait, les points de convergence se mettent en lumière plutôt que les points de divergence. Et c'est là où des accords peuvent survenir parce qu'on a un vrai... souvent des vrais pas qui se font vers une réconciliation, un apaisement, parce qu'on a réussi à avoir la reconnaissance qu'on attendait. Et la reconnaissance est le besoin le plus fondamental de l'être humain. Et souvent, cette reconnaissance, eh ben, on l'a en médiation, parce que devant le juge, on n'a que de la haine, un antagonisme, c'est une présentation
de
des faits.
De l'ego aussi, de dire « je ne lâcherai pas de toute façon ».
Ouais, de l'ego, puis c'est des postures très infantiles en fait. Des postures très infantiles, quelque part... Je ne veux pas grandir, je veux que la maîtresse me rende la copie et te
Et puis qu'on décide pour moi, parce que finalement, c'est plus simple. Parce que souvent, les gens, ils ont... C'est vrai qu'on entend souvent le discours que oui, on a envie d'être libre, mais attention, la liberté, voilà, c'est pas la position la plus confortable. Être libre, c'est ça veut dire assumer aussi ses choix, ça veut dire
totalement. Ouais. Bah oui, ce grand risque et cette grande responsabilité et voilà. Donc et puis on dit bien ce qu'on veut à l'avocat, donc enfin voilà.
C'est intéressant, sujet. Mais par contre, c'est enfin après, est-ce que les personnes qui auraient besoin, par exemple, de médiation, savent que c'est possible? Est-ce que enfin après, il y a un vrai sujet sur comment vous communiquez sur cette possibilité dans le règlement.
Oui, alors Après, ça se fait naturellement par le bouche à oreille, au même titre qu'on se forme une clientèle quand on est avocat. C'est de la résolution de conflits. Un jour, vous résolvez un conflit, puis voilà, au fur et à mesure, les gens réorientent.
C'est intéressant.
Voilà. C'est une autre source. Et dans une société où la justice est quand même très, 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 très en peine, puisqu'elle souffre d'un gros manque de moyens, comme le milieu hospitalier, comme le milieu carcéral. Enfin, voilà, ça fait partie des choses où les gens sont plus infantilisés, voilà. Mais ça, c'est lié au code napoléonien de 1804 qui a souhaité absolument infantiliser les gens parce que c'est la meilleure façon d'avoir la paix, en fait.
Tout à fait, ouais, bien sûr.
On est sur des registres, clairement, de contrôle et d'aliénation de la liberté qu'on a clairement voulu dans notre société et sur laquelle on revient parce qu'on ne souhaite plus donner les moyens à notre justice de faire son boulot. Et donc, on est bien contraint de redonner aux gens quelques attributs supplémentaires de dignité et de... Voilà.
Mais qui n'est pas si simple, parce qu'il vous faut réapprendre
exactement.
Des façons de gérer
totalement.
Ouais, sa vie.
C'est ça.
Ce qui n'est pas toujours
exactement.
Et du coup, Julie, alors, quel est ton demain?
Alors, vaste question, quel est mon demain? Alors, mon demain, ce sera certainement de donner encore plus de force à mon aujourd'hui, en fait, à tous mes instants présents. Jusqu'à 30 ans, on court un peu partout, on essuie pas mal d'expériences, etc. De 30 à 40, on se pose, on a nos premiers enfants, on est en burn-out sur certains sujets. Et après, on se pose avec un rythme de croisière, on perd nos proches. Moi, j'ai perdu ma mère il y a un an et demi, elle a fait un arrêt cardiaque massif, je l'ai perdue dans la journée. Enfin, on l'a perdu avec mon frère dans la journée et on n'a pas pu lui dire au revoir,
quoi,
brutalement,
voilà.
Qui allait très bien, etc. Donc, ces épreuves nous poussent à savourer le présent. On a une apparence, une impression d'inconfort dans nos vies quotidiennes, une multitude de petites frustrations, de petits cailloux dans nos pieds, mais en fait, voilà. Moi, mon cap, c'est vraiment de redonner plus de valeur aux choses simples, importantes, de moins me prendre la tête avec des sources de stress inutiles et de consacrer plus de temps au silence, plus de temps à la contemplation du beau, et essayer de limiter les sources d'agitation dans ma vie. C'est mes caps pour demain. Après, je ne sais pas de quoi, évidemment, sera fait mon demain, puisque je peux mourir demain. Mais je suis en revanche convaincue qu'en donnant cette direction à mes présents, à mon aujourd'hui, j'aurais fait de mon mieux si je m'en tiens aux accords Toltec. J'aurais fait de mon mieux pour que chaque présent soit une petite graine d'un demain plus sympa que si je ne m'étais pas donné cette esthétique de vie ou ce cap-là. Voilà.
Et engagé, du coup, auprès des autres, parce que finalement, ce que tu dis là sur toi et sur l'importance que tu donnes à te centrer sur ce qui peut être essentiel et sur ce qui peut être beau, c'est finalement ce que tu essayes aussi comme outil à transmettre aux gens que tu rencontres, que ce soit dans ta profession, mais voilà, dans tes engagements.
Oui, c'est ça, sauf que j'ai absolument pas cette ambition-là. Enfin, je suis personne pour... pour dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Par contre, je crois beaucoup au mimétisme et au fait que aux vibrations positives, c'est-à-dire que quand on est heureux tel qu'on est et qu'on arrive à diffuser de l'amour parce qu'on essaie de dégager le plus possible les peurs du terrain de façon générale, eh ben, on communique ça. Et du coup...
On s'entoure de ça, du coup.
Et du coup, on s'entoure de ça et ça, c'est chouette. J'arrive pas à trouver le terme, mais c'est la synergie, en fait. Et puis d'une façon plus spirituelle, toutes ces fréquences positives rendent le monde meilleur, je pense. Voilà, sans être dans cette ambition-là, encore une fois, voilà, j'en ai pas la prétention. Mais c'est vrai, quand j'ai, enfin, voilà, tu parlais de Sœur Teresa tout à l'heure, ça fait partie des gens, des figures qui ont éclairé mon enfance, en fait. Enfin, j'adorais, enfin, ça me fascinait, son histoire. Et elle a beaucoup parlé de l'obscurité, d'ailleurs, parce qu'elle s'est souvent remise en question dans des périodes horribles où, limite, elle engueulait Dieu en lui disant « Mais pourquoi tu m'as foutu là ? C'est quoi cette histoire ?» Enfin, voilà.
Mais de toute façon, la foi, il y a beaucoup de questions là-dessus. C'est ce que tu disais, qu'on croit en Dieu ou qu'on ne croit pas en Dieu. La foi, finalement, en ce qu'on est, en ce qu'on veut donner, ce qu'on veut transmettre. Et finalement, moi, ce que je trouve, ce que j'essaye de me dire toujours, parce que ce n'est pas facile dans la vie, on a parfois des gros moments de doute et des gros moments moins faciles ou moins joyeux. Mais ce que j'essaye toujours de me dire, c'est au pire, écoute, vaut mieux que tu t'imagines le positif et voir le bon côté et avancer avec ce que tu as envie, ce que tu ressens et ce que tu penses vrai. Au pire, si tu te trompes, au moins, enfin, je veux dire, tu auras été dans la direction qui te portait toi. Parce que c'est sûr que si tu t'acharnes à avoir le mauvais dans chaque truc, finalement, tu vas l'attirer. Hein, tu vas finir
par aller. En fait, voilà. C'est le premier effet. Mmh. C'est clair. Mmh. Ouais,
mais bon, c'est facile à dire. Après, c'est un quotidien.
Oui, oui, puis accueillir le fait de la tyrannie du bien-être, etc. Enfin, on a le droit le lundi en 8 de se dire, là, ça va pas du tout aujourd'hui.
Je ne suis pas
du tout dans ce mood-là. Ouais, et de lâcher l'affaire, quoi. De se dire, je vais me recoucher ou ça n'ira pas mieux ce soir, c'est pas grave, c'est bien aussi de pouvoir être comme ça.
Oui, mais tout à fait.
C'est de la bienveillance envers soi-même, c'est toujours se tyranniser pour aller bien, pour être au top, c'est pas possible en fait, il faut prendre de la drogue, quoi.
Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est illusoire, ça retombe après.
Oui, et ben voilà, on épuise ses ressources.
Ça ne va pas du tout.
On oublie les saisons, on oublie qu'il faut des hivers pour qu'il y ait des...
Exactement.
Et du coup, on s'épuise, quoi, et on meurt, voilà.
Mais tu vois, c'est une belle conclusion parce que c'est vraiment ça avec Juillet quand on parle. Alors moi, dans mes lectures, tu auras compris qu'il y a beaucoup de Camus, mais ça m'a toujours beaucoup parlé, cette phrase, parce que l'été invincible qu'on a en nous, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que parfois, tu as évidemment des hivers, tu te sens mal et ce qui tient, et c'est ce que tu dis, c'est te dire « Ouais, mais ok, là, j'accueille ça, mais ça va passer en fait, l'été va revenir. » Et cette flamme que j'ai en moi, elle est toujours là. Et bientôt, je vais la ressentir. Ou en tout cas, voilà, elle va reprendre le dessus.
C'est
quoi.
Ça, tout à fait.
Voilà, c'est ça. Ouais. Merci beaucoup, Julie.
Merci à vous deux. Merci, Charlotte. Merci, Cédric.
Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Juillet. Et s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vous abonner, à mettre des étoiles, des commentaires. C'est ce qui nous permet d'être de plus en plus écoutés. Et bien sûr, n'hésitez pas à suivre nos comptes, Agence Juillet, et à nous écrire sur Instagram, Facebook et LinkedIn. On répond toujours. Et on se retrouve très vite pour un nouvel Instant Juillet. En attendant, n'oubliez pas de rire et de crier, de chanter et de danser. N'oubliez pas d'oser. Réalisez vos envies et saisissez vos rêves. Vivez l'instant et osez la liberté. Soyez juillet.